si vous ne vous rétractez pas. La Minute Orge Éco, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio B.
Orge Éco 01, vous pouvez nous joindre au 04 74 22 58 40 ou nous adresser un mail à orgeco01@free.fr.
Résonance, Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous. Résonance, un grand amphithéâtre à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Quelle est la place de la poésie aujourd'hui? La poésie a-t-elle encore une importance? À quelques jours du lancement de la prochaine édition 2016 du Printemps des Poètes, nous consacrons notre émission aujourd'hui à la poésie et à cette question. La poésie a-t-elle encore une importance? Quelle est la place de la poésie? Dans un contexte de plus en plus marqué par le poids de la culture de masse, la poésie semble réduite à la portion congrue. Pourtant, discret mais vif, un désir de poésie demeure à contre-courant des valeurs et discours suscités par le règne impérial de la marchandise. Est-il seulement ce désir l'affaire de quelques-uns? Comme pourrait le faire penser, le caractère souvent ésotérique de la poésie contemporaine, du moins en France, point d'interrogation. Quelle est la place de la poésie aujourd'hui? La poésie peut-elle avoir encore une importance au-delà du cercle des seuls poètes et laquelle? Nous partagerons ce questionnement avec plusieurs invités, des membres du collectif Voix Mêlée, qui va présenter sa deuxième édition du Printemps des Poètes à Bourg-en-Bresse, du mercredi 2 mars au samedi 5 mars 2016. Ce festival s'associe également à la 18e manifestation nationale du Printemps des Poètes, qui aura lieu, elle, sur l'ensemble du territoire national, du 5 au 20 mars prochain, sur le thème Grand 20e, 100 ans de poésie. Alors je voudrais aussi également rajouter que le collectif Voix Mêlée est rattaché aussi à un autre endroit artistique de la ville, le pôle artistique collectif La Grenette, dont la gestion et l'accompagnement est effectué par Arphonème. Et donc il accueille en son sein ce collectif des Voix Mêlées. Résonance sur Radio B. Et aujourd'hui, quelle est la place de la poésie? Aujourd'hui, la poésie a-t-elle encore une importance? Pour évoquer cette question, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro plusieurs invités. Et en premier lieu, Michel Coltis, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue en tout cas. Également, Réjeanne Niogret, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Également, Christine Fusarelli.
Bonjour.
Bonjour. Claudie Debout.
Bonjour.
Et enfin, un homme aussi à nos côtés, Paul Greffet.
Bonjour.
Bonjour à tous. Alors, on va essayer ensemble, chers auditeurs, et là aussi, autour de ce micro, de, voilà, de disserter, d'échanger en tout cas autour de la présence et de la nécessité de la place de la poésie dans notre société aujourd'hui, dans notre aujourd'hui aussi. Et peut-être pour alimenter et puis peut-être déjà un petit peu introduire tous ces questionnements qui peuvent tourner voilà, autour de cette idée, je souhaiterais vous lire un petit extrait d'un important article par contre de Jean-Claude Pinson qu'il avait publié dans Le Monde le 3 novembre 2006 et il l'avait intitulé « Penser la poésie ». Alors il écrit ceci. « La poésie a-t-elle encore un avenir ? Ou n'est-elle plus pour nous qu'une chose du passé ? Tout juste bonne à être un objet d'étude universitaire. Certes, elle semble aujourd'hui proliférer, comme il se doit à une époque où la multitude s'approprie de plus en plus toutes sortes de pratiques artistiques, bien au-delà du simple hobby. Mais sa valeur symbolique s'est à ce point érodée qu'on a pu évoquer, non sans raison, sa péremption. Dans un trait, William Marx justement le suggère, dans un trait suggestif paru l'an passé, l'adieu à la littérature. Sous une forme pourtant, la poésie paraît pouvoir encore un peu prospérer. Ne joue-t-elle pas, en effet, fût-ce maigrement, sa partition dans le concert des arts de la scène et du spectacle ? La poésie performance, la poésie mise en voix, accompagnée de musique, de vidéo ou de danse, incontestablement a aujourd'hui le vent en poupe. Du coup, certains n'hésitent-ils pas à parler d'un âge d'or, en même temps qu'ils se demandent si la poésie appartient toujours à la littérature. Tel est le cas de Jean-Michel Épistalier, dans un essai récent, alerte et stimulant, intitulé « Caisse à outils, un panorama de la poésie aujourd'hui » paru aux éditions Pocket, prenant acte de la diversité de ses modalités, poésie sonore, concrète, graphique, numérique, hors texte, vidéo, poésie, performance, etc., soulignant l'importance de la transversalité des pratiques artistiques. Il croit ainsi pouvoir avancer que la poésie pourrait être sortie de l'espace strictement littéraire. Fin de citation. Alors voilà, c'est un petit peu une manière, parce que c'est un sujet qui nous demanderait beaucoup d'approfondissement. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner quelques entrées, je dirais. C'est vraiment le propos, et puis tout le propos justement de Voix Mêlée, c'est-à-dire de faire exister pendant quelques jours, mais pas seulement, on y reviendra, parce que à certains moments donnés, il y a tout un travail en amont et il y a aussi tout un travail qui perdure derrière ces moments, mais que cette poésie peut être bien présente justement et qu'elle a tout son sens et peut-être elle devra en encore davantage, elle devra en avoir davantage justement dans notre société d'aujourd'hui. Alors peut-être une première réaction à ce propos ou du moins aussi à la question que j'évoquais en début d'émission, c'est-à-dire quelle est la place de la poésie aujourd'hui ? La poésie a-t-elle encore une importance, qui aurait envie de réagir peut-être à la fois à ses propos et à cette question. Réjeanne.
Moi, ce qui me fait réagir par rapport à ces propos, qui sont du reste très intéressants, c'est que si on considère la poésie essentielle à l'homme, à ce moment-là, l'importance n'est même plus à discuter. Et si on a le sentiment que la poésie est l'équivalent de l'air que l'on respire, eh bien... La poésie est nécessaire, elle est là, elle le sera toujours.
Oui, voilà, Réjeanne qui réagit, et Claudine ?
Et je dirais que autant que la poésie est inscrite dans la réalité du mot et de la pensée, on ne peut pas la sortir de la littérature.
Comme il le laisse entendre, effectivement.
Comme la question précédente le laissait entendre. Et puis, poésie sonore, poésie concrète, poésie graphique, numérique, c'est le retour aux sources, c'est le retour à l'étymologie. Poésis, en grec, c'est vraiment l'acte de faire, l'acte de fabriquer. Donc là, effectivement, la poésie se fabrique à chaque époque de son temps. Elle est le reflet de ce que nous sommes et elle est le reflet de notre époque. Je dirais presque que c'est l'épopée moderne de notre monde actuel.
Donc on voit qu'effectivement elle est ancrée, elle est là et elle est nécessaire.
Elle est nécessaire et elle est, comme disait Réjeanne, souffle de vie également.
Paul Greffet ou, oui,
oui, et justement, je dirais que c'est aussi le propos de notre collectif Voix Mêlée.
C'est ça.
C'est-à-dire de ne de pas réserver la poésie uniquement au texte, mais aussi à d'autres formes d'art, telles la musique, la danse, les arts plastiques, et de faire en sorte qu'il y a une transversalité un petit peu qui s'opère et qui permette à la poésie d'exister dans différents domaines. Donc, on est tout à fait dans ce...
Ça permet de se questionner finalement sur qu'est-ce que c'est que de la poésie. Finalement, alors peut-être Claudine ou Michel Coltis.
Peut-être pour poursuivre ce que dit Christine concernant l'événement Voix Mêlée.
Tout à fait.
Dès le départ, il a été question de mêler les arts, de mêler les paroles, de mêler les auteurs. Donc, mais on a toujours pensé que on s'appuyait quand même essentiellement sur les textes, sur la parole, sur les mots. Donc ça ne veut pas dire que du tout le croisement des arts
l'emmènerait
n'est qu'à
ailleurs,
faire valoir.
C'est ça. Oui, parce que c'est ce qu'il sous-entend finalement un petit peu dans le fait qu'aujourd'hui, avec parce qu'il y a aussi des fois des effets de mode aussi, des effets de nouveaux moyens aussi, quand on pense au numérique ou de croisement qui fait qu'à un moment donné, ils sont un peu fortuits, pas forcément toujours en profondeur, et il attire un peu sa réflexion un peu là-dessus. En se disant, bon, est-ce que là, il n'y a pas, sans dire de dénaturer, mais en tout cas quelque chose qui tirerait la poésie ailleurs de ce fait, quoi.
Notre expérience à Voix Mêlée montre que les artistes, quels qu'ils soient, comédiens, musiciens, danseurs, plasticiens, vidéastes et tout ça, tous ces artistes-là sont touchés par la poésie. Et c'est quelquefois, ils ont du mal à intégrer dans leur travail cet aspect profond qu'ils ressentent. Et s'ils viennent aussi nombreux, puisqu'ils sont une vingtaine...
Oui, parce qu'on pourra en parler tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'artistes engagés.
S'ils viennent aussi nombreux participer à cet événement, c'est que pour eux, ils peuvent justement mettre en expression ce côté poétique de leur art. Voilà.
Ça paraît important, en tout cas, qu'il y ait autant d'artistes. En tout cas, ça montre bien l'intérêt, justement. L'intérêt aussi de Voix Mêlée, finalement, parce que là, il va être aussi une passerelle, aussi un rendez-vous. Mais en tout cas, un moment où chacun peut s'aventurer, lui aussi, l'aventure d'un texte, mais en mêlant peut-être au travers de sa propre discipline artistique, s'aventurer là aussi, peut-être dans de nouveaux espaces, parce que c'est la poésie aussi qui l'emmène dans ces moments-là, Jeanne.
Oui, alors, c'est vraiment ça, parce que... Par exemple, il va y avoir une soirée vendredi soir qui a donné l'occasion à un groupe d'artistes de créer sur des textes de Maram. Et là, j'ai un exemple. Hélène Perronnet, par exemple, a créé une véritable réalisation par rapport à un texte de Maram. Et j'étais là au moment où elle est rentrée en connivence avec ce texte. Et pour elle, c'est un défi.
C'est ça.
C'est un vrai défi parce qu'elle va assumer ce texte avec son art, sa voix. Elle va même sûrement dire des moments le texte. Et c'est vrai qu'elle s'en est emparée et ça va être un plaisir de découvrir son travail.
Alors peut-être ça peut nous permettre justement, quand on parle de Haram, justement Maram Al-Masri, qui est une des invitées. Parlons-en peut-être déjà un petit peu invitée particulière justement de cette édition de Voix Mêlée. Rouge même, en parlant d'Hélène Perronnet, c'est un fil rouge aussi pour un certain nombre d'artistes.
Voilà, c'est ça. Donc Maram Al-Masri a accepté, donc on l'a contactée il y a assez longtemps, et elle a accepté de participer à notre événement, ce qui a donné une direction à prendre par rapport à cette œuvre que nous réalisons tous ensemble, cet événement qui est quand même une œuvre collective. Et ça a donné une direction, des bases, et puis... Il est vrai que cette poète a une très large palette qui a vraiment pu inspirer des artistes très différents et qui ont créé avec leur discipline et avec beaucoup d'inspiration.
Alors on peut juste rappeler, même si on y viendra un petit peu plus pour la présenter tout à l'heure, qu'elle est d'origine syrienne justement. Ça fait encore écho peut-être encore un peu plus fortement justement avec l'actualité tellement chargée depuis ces quelques années avec ce pays. Elle est là depuis en France, depuis un certain temps déjà. Et puis elle a écrit beaucoup de livres déjà et beaucoup de poèmes.
Voilà, elle a effectivement à la fois une large palette et à la fois déjà... une quinzaine de recueils à son actif. Elle a aussi écrit des anthologies. Et c'est une artiste très... Vous voyez, quand on parle du rapport entre la littérature et la poésie, spontanément, je dis artiste.
Tout à fait.
La littérature aussi est un art. Donc, si on considère la poésie comme un art, on peut la rattacher effectivement à l'art. Et donc, elle est très touchante parce qu'effectivement, elle vient de Latakia en Syrie. Elle est arrivée à 20 ans en France, donc il y a 30 ans maintenant qu'elle vit en France. Elle est très, très attachée à son pays, à sa patrie. Elle a encore de la famille là-bas. Et son écriture, bien sûr, exprime tout le déchirement qu'elle peut, avoir avec les affres de sa patrie, mais aussi de l'humanité en général.
Alors, juste pour venir un petit peu encore quelques instants, on vient un petit peu d'esquisser tout ce qui peut être aussi sur cette notion de poésie. Mais du coup, Paul Greffet, c'est quoi pour vous aussi la poésie finalement ?
Ah, je vais faire une pirouette.
Ah bah oui, volontiers.
Je vais vous répondre à travers un texte de Francis Combes.
Superbe.
Utilité de la poésie. Un jeune mendiant croisé dans le métro, sur un bout de carton accroché à son cou, avait écrit ces mots. Comme la forêt en feu crie vers l'eau de la rivière, je m'adresse à vous. Donnez-moi, SVP, quelque chose à manger. Et, semble-t-il, des gens donnaient. Ce qui tendrait à démontrer l'utilité dans nos sociétés de la poésie.
Résonance sur Radio B. Quelle est la place de la poésie aujourd'hui ? La poésie a-t-elle encore une importance ? Voilà, c'est tout l'enjeu de cette émission. Et puis, on va continuer peut-être aussi encore. Paul Greffet nous a fait une magnifique pirouette. On va continuer avec Claudie Debout et avec un texte également.
Un texte de Marin Malmasserie. Les poèmes n'ont pas servi. Les chansons n'ont pas servi. La danse n'a pas servi. Les pleurs et les cris n'ont pas servi. Les sourires des enfants n'ont pas servi. N'a pas servi d'araya, tes roses et les branches d'olivier pour les soldats de la mort. Ni vos bougies magnifiques, grande dame de Salamièche, ni ton pain, Alfaya, rien n'a pu arrêter l'avancée des chars.
Ouais, c'est fort aussi, ça. Hein,
c'est tout l'aspect de notre poète invité qui vit l'exil, qui vit la guerre. Et alors ça, c'est une partie de
son travail.
Elle a beaucoup écrit pour la liberté. Elle a un vrai engagement. Et puis elle a des côtés beaucoup plus. Beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus d'une femme qui, au travers, je pense que Réjeanne, elle le dit très bien, c'est-à-dire qu'au travers d'elle-même, elle touche toutes les femmes. Réjeanne, je crois que tu avais une phrase concernant, tu savais reprendre que je n'ai plus là, sur
Réjeanne Yeugret, alors.
Oui, il y a un poème dans le recueil, je ne me souviens plus exactement lequel, elle dit « Je suis toutes les femmes, par la fontaine de ma bouche ». Le premier poème commence « Je suis toutes les femmes ». Et il décline
au travers de ce qu'elle exprime. À chaque fois, je crois que c'est ce qui caractérise Marin Malmasserie. À travers ce qu'elle elle ressent, elle, intimement, elle aime ouvrir sur l'ensemble, de permettre à toutes les femmes, là en l'occurrence, ou toutes les personnes, d'être touchées par la même chose que ce qu'elle vit, elle. C'est jamais anecdotique ce qu'elle raconte. Voilà.
La poésie est un acte. Je reprends simplement des termes aussi de Yves Bonnefoy, qui pourrait, et d'autres pourraient tout à fait le dire, mais que du coup, là aussi, parler poésie, c'est aussi poser un acte. Voilà. Réjeanne Yeugret.
J'ai un peu le sentiment que c'est quelque chose dont Maram va nous parler vendredi soir, parce que c'est quelque chose dont elle a pris conscience au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, elle a écrit comme une jeune femme écrit par amour, des poèmes d'amour. Et un jour, elle s'est rendue compte qu'elle était poète et qu'elle avait une responsabilité de poète. Et ça, c'est quelque chose qui va être très intéressant de lui...
Oui, parce que c'est une chose, après, de se sentir qu'on a cette responsabilité, c'est encore une autre dimension, et qu'on contribue, non plus pas avec ses certitudes, mais en tout cas avec ses questionnements, avec ses propres réflexions internes, avec son regard aussi, ben, finalement, à apporter aussi, pas dire un éclairage, mais en tout cas un sentiment qui peut des fois être en correspondance aussi avec des sentiments profonds qu'une population peut traverser ou recevoir de manière, on parle de la guerre en Syrie, de vivre de manière très dense, très émotionnelle et très, très gravement aussi également.
Voilà, puis en ce qui la concerne, je pense qu'elle a eu des retours avec des lecteurs qui ont vraiment réagi à son écriture. C'est-à-dire, elle n'avait pas forcément anticipé « je vais être une poète », alors que ça aurait pu.
Elle aurait pu très bien
dire à 15 ans « je vais être une poète ». Ça n'a pas été le cas et c'est très intéressant de voir que ça s'est fait par sa volonté, mais aussi par les lecteurs qui ont leur part d'action dans son parcours. Vraiment.
Alors, peut-être on peut commencer aussi à avancer un petit peu dans notre questionnement. Et peut-être avec vous, Christine Fusarelli, comment ça a été pour vous aussi, le premier contact qu'on vient d'évoquer avec Maram, finalement, qu'elle découvre à un moment donné dans sa jeunesse que, tiens, voilà, les mots me titillent, j'ai envie de poser des mots pour dire ce que je ressens. Et puis à des moments donnés aussi, la poésie devient un choc. Et comment ça se passe, ce type de choc? Comment on rencontre finalement... à un moment donné, avec la poésie.
Sans raconter ma vie, moi je dirais qu'il y a eu trois étapes. La première, comme beaucoup de gens, c'est l'école primaire, c'est les récitations de l'école primaire, parce qu'on a du plaisir, enfin pas tout le monde, mais enfin, moi j'avais du plaisir à dire des textes devant un auditoire. Et puis un peu plus tard, c'est au lycée, c'est la découverte des poètes. Et moi j'avais un prof de français qui était super, qui m'a fait aimer Baudelaire, qui m'a fait entendre Ferré chantant Baudelaire. Et tout ça marque quand on a 16-17 ans. Et puis après, dans un troisième temps, je dirais que c'est la rencontre avec un poète, avec Gabriel Le Gall, qui m'a permis d'apprécier la poésie contemporaine et puis d'être aux côtés de quelqu'un qui écrivait et qui écrit de très belles choses.
Et voilà. Oui, il faut rappeler que Gabriel Le Gall, qui était un poète ici, tout proche, qui vivait à Césaria et qui nous a vraiment bercé de telles belles choses aussi, et qui nous a quittés il y a quelques années, mais dont son travail poétique et son œuvre mérite justement qu'on en parle d'ailleurs beaucoup
bien
plus.
Alors,
ça, c'est une manière. Et pour vous, Paul Greffet, la rencontre avec la poésie, alors, du coup, peut-être encore une autre pirouette?
Pas de pirouette, mais trois étapes aussi. La première, c'est Lucie, c'est ma maman, qui me chantait des chansons quand j'étais petit, qui me racontait des histoires, qui nous faisait réciter les récitations de l'école. Parce que le deuxième, c'est donc aussi l'école,
c'est l'école,
les récitations. Ensuite, il y a eu un prof de français aussi, M. Corget, à la Lande, puis après à l'école normale. Ouais. Et puis... pareil, on a un peu le même parcours avec Christine.
Avec Christine Fusarelli.
Gabriel Le Gall, avec qui, que j'ai eu comme professeur à l'école normale, qui avait lancé un atelier théâtre et poésie. Et c'est là où j'ai commencé à dire des textes et que j'aimais ça. Et on a travaillé ensuite après pendant de longues années.
De longues années, voilà. Vous avez formé un duo très longtemps.
Puis après un trio avec
Christine. Un trio avec Christine aussi également. Alors du coup, peut-être aussi, on pourrait dire, qu'est-ce qui fait que s'il y a ce contact, comme vous venez de le dire, dans des espaces finalement, qui nous amènent à découvrir par le biais soit d'un enseignant, soit par le biais aussi de quelqu'un qui s'aventure lui aussi dans l'écriture. Et qu'est-ce qui fait qu'aussi, à un moment donné, il y a un texte nous chope, si je peux dire, un texte nous attire, même si peut-être à certains moments donnés, on n'en comprend peut-être pas forcément tout, mais il y a des aspects peut-être des fois abstraits, énigmatiques, mais il y a quelque chose quand même qui nous attire d'une manière assez, même si on ne peut pas y mettre des mots peut-être dessus, mais physiquement, émotionnellement, il y a quelque chose qui nous attire vers ce texte.
Oui, alors moi je répondrais, j'ai une façon d'aborder la poésie en la lisant à haute voix.
Oui.
Ce qui m'oblige à prendre du temps, à prendre conscience de la respiration, du rythme, des sonorités, de la musicalité, des silences aussi. Mettre des silences. Et puis ne pas s'arrêter justement au sens. Le sens, il viendra petit à petit. Il y a un sens immédiat, on saisit des choses. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui arrivent après. Mmh. Et je pense que j'ai eu pas mal d'instits en stage ou choses comme ça. Je leur disais toujours, n'ayez pas peur de dire des textes, même s'ils sont difficiles à vos enfants. Ils ne vont pas tout prendre, mais il y a des petites choses qui vont être là. Et plus tard, il y aura d'autres choses qui vont faire écho et qui vont leur rappeler que, ah oui, dans ce texte-là, il y avait aussi ça. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça, je crois. Il ne faut pas avoir peur du sens. Ça nous embête tellement le sens.
Oui, on a l'impression qu'à des moments donnés, si... Parce que je pense que c'est... Alors, on pourrait le faire des parallèles aussi avec des musiques plus, entre guillemets, contemporaines aussi aujourd'hui. Ouais. On pourrait un peu faire les mêmes choses, parce que peut-être parce que ça repose sur des codes qui nous semblent différents, ou qu'on a peut-être... se dit, c'est pas fait pour nous, et que du coup, on est prisonnier du sens, de la signification, alors que non, que ça va se situer ailleurs, finalement.
Voilà, absolument. Et puis, il y a aussi une chose, c'est dire un texte à haute voix. C'est un vrai plaisir. Alors, il n'est pas immédiat. Et le petit problème qu'on pourrait noter par rapport à la récitation, comme on l'appelait, c'est qu'on s'arrêtait toujours au par cœur. Et que le par cœur, il faut le dépasser.
C'est ça.
Mais on peut s'appuyer sur le texte en le lisant, on peut l'avoir par cœur. Mais le par cœur ne suffit pas, il faut aller encore plus loin. Parce que dire un texte, c'est se l'approprier.
Bien sûr.
On n'est pas sûr que l'auteur a voulu dire tout ça. D'ailleurs, quand je lisais des textes avec Gabriel Le Gall, il me disait « ça, c'est un truc que je n'avais pas vu dans ce que j'ai écrit. » Parce qu'on est traducteur de quelque chose.
Complètement.
Voilà, et puis ça continue après avec le lecteur.
Peut-être là aussi, sur ce que dit Paul Greffet, Claudine Debout, il y a aussi le fait que c'est du son, finalement. Il y a le son, il y a un aspect physique, si je peux dire aussi un peu, quelque part, de la poésie. Le mot qui sonne, le physique qui s'engage.
Oui, et là, on parle du moment de l'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, le corps accompagne. Alors, Paul parlait du souffle, mais le souffle de l'écriture est le même. Le balancement, je dirais, le balancement du corps, c'est-à-dire un peu l'incantation du mot, l'invocation, et tout ça fait partie d'un premier temps d'écriture, pour moi. Et ensuite, bien sûr, l'apaisement, quand les premiers mots, les premières formules sont posées. Et puis après, c'est le retravail, bien sûr. Mais l'écriture, oui, c'est une aventure où, intellectuellement et physiquement, on s'engage.
Peut-être, Christine Fusarelli, on trouve ça aussi quand on... Paul parle aussi de, faut aller au-delà finalement du par cœur, et du coup c'est comment je vais habiter, mais dans tous les sens du terme. On vient d'entendre comment le corps, le balancement, l'idée de balancement dans l'écriture, mais aussi balancement peut-être aussi dans quand je dis, quand je porte, quand du coup il y a ça va très loin finalement de comment on va habiter ce texte.
Oui, et puis ça, je pense que je pense à une réflexion que j'ai eue d'un jeune ce matin là, d'un élève du lycée Caria, puisque j'interviens auprès des élèves, et qui avait entendu le texte dit par une de ses camarades, et qui a dit « Ben non, c'est pas bien parce qu'elle y croit pas ». Et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que quand on dit un texte, il faut être complètement dedans. On peut pas le dire comme ça, s'en débarrasser, ce qui est souvent le cas quand les élèves récitent, comme on dit. Et quand ils arrivent à s'investir vraiment et à mettre de l'émotion dans les mots et à mettre des silences aussi, parce que c'est souvent ça.
Paul l'évoquait, effectivement.
Voilà, ouais. Guilvic disait, la poésie, c'est la sculpture du silence. Et je trouve que c'est une très belle, une très belle phrase. Donc, je pense que tout le monde peut se sentir cette implication qu'on doit mettre en disant un texte, tout comme il y a la même implication quand on écrit, mais quand on dit un texte et quand on le reçoit aussi, parce que les élèves en l'occurrence se rendaient tout à fait compte que s'ils étaient totalement à l'écoute, ils étaient touchés par celui qui s'est impliqué dans sa diction.
Il y a Yves Bonnefoy qui, justement, en parlant un petit peu de qu'est-ce que c'est pour lui le poème, et qui nous dit « Le poème, ce fut d'abord une écoute du son, une adhésion à un rythme, une montée de la voix dans la parole. Et lui aussi, le lecteur, il a un corps, il a une voix, et c'est à mi-voix qu'il lit, plus qu'avec ses yeux, ce qui lui assure beaucoup d'intimité avec le poète. Il peut même penser que la pensée de cet autre se fait la sienne. » N'est-ce pas dans ces pages qu'il sait revivre, et non en deçà, je tourne pour l'instant, ma page, des mots dans une réflexion antérieure que cette pensée a vécu ses espérances et constaté et médité ses échecs. Voilà, il complétait. Mais dans cette idée de rapport que aussi celui qui va investir, alors on pouvait l'entendre quand Claudie Debout parlait aussi de l'écriture, du coup il y a quand j'écris comment le corps, comment le son, comment le rapport aussi aux mots, mais il y a aussi celui qui du coup s'approprie, s'aventure finalement dans ce qu'est cet espace sonore et de mots et de sens et qui physiquement aussi va l'habiter. Régine Yogret, puis après on sera avec Michel Coltis.
Régine. Cette conversation me fait penser à une petite anecdote que je peux vous raconter.
Volontiers.
Donc, il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'assister à une répétition entre une danseuse et Noël Paubel qui prépare une lecture qui sera faite avec Maram. Donc, moi, j'avais le rôle de Maram pour les aider à avoir un peu le bon temps. Et nous avions répété avant avec Noël Paubel, juste sans Émilie Bourgaud, donc qui représentait vraiment la création du corps, la danse. Mmh. Et toutes les deux, nous avions le sentiment que notre lecture ne décollait pas, que ça prenait pas, quelque chose n'allait pas. Bon, c'est une lecture qui était créée pour 3 personnes, il est vrai. Donc, nous avons appelé Émilie et nous avons convenu d'un rendez-vous, nous sommes rencontrés. Et Émilie, en nous entendant lire, a aussitôt été inspirée. Donc, elle avait déjà bien sûr travaillé, mais donc les choses ont levé un peu comme du pain qui lèverait. Et j'ai senti de manière perceptible quelque chose qui prenait, mais vraiment comme du pain qui monte. Mmh. Et donc, Émilie a ouvert avec la danse l'espoir, l'espace, mais par nos mots, en fait. Parce que je lui ai dit ce retour, elle a dit, mais moi, c'est pareil.
C'est ça,
elle a senti les mêmes choses. C'est le fait d'entendre les thèses, vous entendre lire, m'a donné ça. Et il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé que j'ai pu ressentir, puisque j'avais vu la différence entre avant à 2 et à 3. C'était extraordinaire.
Ouverture des corps, ouverture spatiale.
Ouverture spatiale,
et ça,
voilà.
C'est intéressant.
J'ai eu le sentiment que l'espace s'ouvrait au poème et que l'espace devenait poème. C'était vraiment très, très, très intense.
Michel Coltis, un rebond.
Oui, peut-être un poème de Julien Blaine qui est issu du cours minimal sur la poésie contemporaine de 2009. La performance. C'est un corps dans un espace. Et c'est un son dans un corps. Ce son est celui de mon corps, ou celui de cet espace. C'est un son de nature, voix, viande, etc. Ou un son d'artifice, musique, bruit, etc. Puis, c'est un geste du corps et un mouvement de cet espace. Et comment jouent ensemble le geste du corps et le mouvement de l'espace ? Le mouvement de l'espace est proprement celui de l'espace, mais aussi du peuple de cet espace, du public. Là, tout va bouger, le corps, l'espace, le son, le geste, et la rencontre sera ou s'évaporera. Là, aux entrepôts frigorifiques, sous les voûtes de cet espace, en bord de Seine, aux frontières d'une friche industrielle, qui sera une université parisienne, l'université Denis Diderot, la rencontre s'est établie. Quant à l'enseignement, l'université future ne pourra jamais faire mieux.
Résonance sur Radio B, quelle est la place de la poésie aujourd'hui ? La poésie a-t-elle une importance ? Alors on vient d'entendre avec Michel Coltis un magnifique texte et puis la conclusion est d'autant plus pertinente je trouve. On va continuer aussi avec Christine Fusarelli, avec, là aussi avec un autre texte.
Oui, c'est un texte de Guilvic. Cet entrelacs de pensées, de rêves, de vues, de visions, de souvenirs, d'aspirations qui occupent tes loisirs et souvent te pèsent. Cet entrelacs, le poème l'écarte, le chasse, au profit d'un centre où tu trouves l'espace pour tes dimensions. Un second poème. Faire en moi cette vacance qui demande à être vaincue. Cerner davantage en moi ce presque puits qui fait malaise. M'apprendre à découvrir un creux si fort qu'il appelle cette autre chose dont les mots deviendront les chargés de pouvoir.
Là aussi, deux textes très beaux et forts. Alors peut-être qu'on peut essayer, là, on commence à se questionner finalement sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ce soit du point de vue de celui qui écrit, de l'importance du physique, du spatial, de la rencontre aussi, de que peut ménager aussi la poésie. Et finalement, c'est aussi ça l'enjeu de voix mêlée. C'est-à-dire, du coup, on l'évoquait un petit peu déjà en introduction de l'émission, mais que du coup, quand on, vous évoquiez, Réjeanne Yogret, la présence d'Émilie Borgo, de la danse, etc. Donc, comment aussi va se fabriquer la rencontre et comment la poésie en tant que telle ou le poète et puis peut-être la poésie peut devenir le lien justement entre des gens qui s'intéressent dans leur art aussi à comment ces textes-là peuvent être porteurs aussi dans leur propre aventure artistique.
Alors oui, donc nous, là c'est par rapport à notre invité, vous les...
Oui, et puis peut-être on peut donner le sens peut-être de cette édition de Voix voilà. Mêlée 2016.
Alors l'édition nationale, donc chaque année comprend un thème. L'an dernier, c'était donc l'insurrection poétique pour le 17e printemps. Et là, cette année, donc, c'est le grand 20e, les poètes du 20e siècle. Mmh. Donc, pour le festival Voix Mêlée, on est quand même rattaché à ce thème
à
également.
Mmh.
Et du fait du foisonnement des écrits poétiques du 20e siècle, on n'a que l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Et comme nous sommes tous passionnés de poésie, nous avons tous... Dans nos petits trésors, dans nos grands trésors, des grands poètes ou des moins connus à faire
bien
découvrir.
Sûr.
Donc c'est ça, je crois, c'est faire découvrir et refaire vivre des textes qui peut-être sont parfois trop souvent dans les livres, dans les étagères.
Et puis il y a le côté laboratoire, c'est-à-dire aussi que du coup, vous-même, vous vous aventurez, mais vous emmenez aussi d'autres gens à s'aventurer aussi dans ce que ça peut être, Paul Greffet.
Oui, notamment, on va commencer mercredi soir
voilà.
par une rencontre où on va mêler à nouveau des voix. Donc, celles de gens qui font, entre guillemets, du rap, mmh. du slam. Mmh. Et puis, la poésie peut-être plus classique comme nous, on peut la voir mmh. ou la donner. Voilà. Et cette rencontre, on la veut ouverte, c'est-à-dire que il n'y a pas un programme défini pour l'instant. On va faire avec les gens qui viennent.
Qui seront là, ouais.
Et ces gens qui viennent, notamment, seront, entre guillemets, amenés par Axel Clair de Plaque Tournante, mm-hmm. qui fait un travail dans les quartiers de Bourg. Il se promène avec une petite tente, avec un thermo de café. Il va dans les quartiers et il travaille autour du rap et de l'écriture. Avec les jeunes des quartiers qui le veulent. Il n'y a pas d'inscription, c'est vraiment quelque chose comme ça. Mmh. Et donc, il va amener avec lui des rappeurs plus confirmés, mais aussi, je pense, des élèves. Mmh. Ça, c'est l'ancien prof qui parle. On ne se refait pas. des jeunes des quartiers qui justement, ne sont voilà. plus élèves dans ce cadre-là.
Ouais. Mmh.
J'espère qu'ils pourront venir.
Ça risque voilà. d'être un moment chouette et fort. C'est-à-dire là aussi ouais. que du coup, transgresser finalement les lieux habituels et que c'est quelque chose qui n'appartient pas forcément à une population particulière, mais qu'elle appartient à tous.
Et... Voilà, et que la poésie, c'est le contemporain, c'est maintenant.
C'est ça.
Bon, Rimbaud, beaucoup ont dit qu'il aurait été punk à l'époque actuelle.
Certainement.
Voilà. Les jeunes qui écrivent dans les quartiers ou ailleurs ont des choses à dire et des choses à défendre, des choses à crier, à hurler. Mmh. Et il faut les entendre aussi. Ça fait aussi partie de la parole poétique. Oui, parce qu'il y a une très belle écriture chez, dans ces textes-là.
Et puis, il y a aussi, quand on parlait déjà aussi du physique aussi tout à l'heure, enfin, tout ce que nous a amené cette danse aussi de l'écriture. On préfère on l'évoquait en préparation de cette émission aussi, les langues des signes, les langages codé-parlés. Mais quand on voit aussi avec le rap, et même ne serait-ce qu'un poète qui s'engage aussi dans la lecture d'un texte, automatiquement, il y a une danse du corps. Il y a la danse singulière de chacun qui se met en œuvre. Parce que porté par tout ce qu'on essayait de commencer à dire tout à l'heure, le poids des mots, le son des mots et le sens qui nous invite à aller sur ce quelque part.
Oui, lors de cette soirée, donc, les gens qui viendront pourront dire des textes qu'ils ont écrits, qu'ils ont lus, qu'ils trouveront sur place parce qu'ils n'ont pas pensé qu'ils pourraient dire quelque chose, mais qu'ils vont changer d'avis parce que ça leur donne envie. Et je crois que c'est ça l'important, c'est de donner envie de dire et de dire aux autres des textes. Voilà. Et nous, on a vu la soirée dans
cette
idée-là.
Voilà. Donc, on va préciser que c'est le café de la tannerie à ce moment-là. Donc, à la tannerie. Et donc, du coup, cet horaire, c'est à 19h.
Voilà.
Donc, à un moment, si on a envie d'aller se hasarder, découvrir, et puis il est sans complexe finalement.
Absolument.
C'est le moment où y aller. Peut-être un autre rendez-vous, Michel Coltis, qui semblerait dans cette idée, je dirais, de partage, de rencontre au cours de ces quelques journées.
Alors, il y a énormément de voix qui se mêlent. Alors, il y a déjà autour de Maram, Réjeanne en a parlé tout à l'heure, vont se mêler à la fois les voix de Maram et son engagement dans l'écriture et dans sa vie, et tous ces artistes qui vont être autour, qui font des créations pour elle, pour cette soirée. Et c'est à Arphonème le vendredi 4 mars à 20h30.
Voilà.
Et puis alors le samedi, il y a une grande déambulation. L'idée de rencontre, c'est de permettre aux gens de grappiller peut-être des petites bribes poétiques, ce serait déjà vraiment très beau que ça se passe comme ça, puisqu'il va y avoir un très grand nombre de propositions qui vont être faites dans l'ensemble des lieux culturels de la ville. On commence au monastère de Brouhour, on traverse les médiathèques, la MJC, et on va terminer au centre-ville à Claudel. Mais en plus, c'est rejoint dans cette déambulation des nouveaux lieux, comme la jeunesse laïque, comme la résidence des Peupliers. Vous voyez, il y a une recherche de cette année assez importante pour qu'on entende à la fois les paroles des grands auteurs du 20e, ce qui nous rattache à la thématique du printemps, et puis les paroles d'aujourd'hui, singulières, et qui ont été en amont travaillées dans des ateliers d'écriture que mènent effectivement Christine Fusarelli et Claudie Debout. Et puis, qui vont donc permettre à un certain nombre de gens de pouvoir exprimer, eux, à la fois ce qu'ils ont écrit, peut-être autre chose. Et puis, en tout cas, il y a aussi des publics, des gens qui ont été... on est allé à la rencontre de personnes pour un recueil de paroles. Donc, c'est ce qu'a fait Thierry Cutel avec le CPA, au CPA,
au Saint-Psychothérapeute.
Voilà. Lui, c'est tout à fait original puisqu'il va lire les textes qui ont été écrits dans un bus, la ligne 6.
Alors, ça va être la ligne 6, à ne pas manquer.
Qui relie le CPA
justement
à la prison, entre parenthèses. Bon, bref, en passant par le centre-ville et la médiathèque, Vaillant. Il va y avoir des paroles aussi de données à la boutique Emmaüs, sur des textes aussi réalisés par les compagnons. Il va y avoir aussi à la résidence des Peupliers, donc, de la lecture, un travail fait avec, on va dire, nos anciens, qui vont pouvoir aussi échanger. Donc, il va y avoir dans la journée du samedi une multiplicité de rendez-vous, multiplicité de paroles, multiplicité d'expressions. Voilà.
Claudine Debout, je crois que vous avez travaillé justement, Michel Coltis évoquait certains anciens. Vous conduisez aussi des ateliers sur le terrain en amont et aussi à d'autres moments de l'année.
Oui, je mène des ateliers, là principalement pour le festival Voix Mêlée. Ça a été un café écriture qui a été mené à Pérona au café de campagne sur le thème de la poésie pour vous, la poésie du XXe siècle. Et effectivement, j'ai collecté des paroles très singulières et en même temps très émouvantes, mais aussi des paroles qui vont de la poésie à mon époque, et cette époque, c'était celle de la guerre. On avait autre chose à faire que de faire de la poésie, mais n'empêche que les souvenirs, les poèmes qu'ils ont récités étaient vraiment ancrés dans leur mémoire.
Parce que c'est des anciens qui sont venus au café de campagne.
Alors, j'ai travaillé avec des anciens des Peupliers, et puis donc le café écriture avec
c'est les âges mêlés.
Voilà,
là aussi.
On est à nouveau sur le thème du croisement des âges, des publics, et des richesses que chacun.
Et comment ça réagit justement? J'imagine, il y a un petit peu, au début, on n'ose peut-être pas forcément beaucoup, mais comment chacun prend une aisance ou...
Oui, alors ça, c'est l'aventure des ateliers d'écriture, café écriture, c'est-à-dire où on voit de la lumière, on vient et on s'assoit, et donc on se confronte soi-même à l'écriture. Et là, c'est une aventure autant pour eux que pour moi, parce que en commençant le café écriture, je ne sais jamais
qu'est-ce qu'il va en sortir.
Par contre, par l'expérience que j'en ai, je sais qu'on peut faire confiance à chacun de ceux qui viennent s'asseoir autour de la table, parce que chacun et chacune a quelque chose à dire. Et la poésie, on revient sur ce thème-là, la poésie est quand même importante pour chacun d'entre eux.
Réjeanne Niogret, il y a peut-être un texte que vous vouliez nous faire entendre.
Alors oui, j'ai un peu l'embarras du choix. Donc j'hésite entre Flora Orima de Vatine, qui est d'origine tahitienne, qui est du milieu du siècle. Oui, pourquoi pas.
Et pourquoi pas?
Alors, il s'appelle Adresse. En deçà et au-delà de nos identités originales, de nos appartenances communautaires, en deçà et au-delà de nos langues détournées, transgressées, de nos noms reconnus, ressourcés, des terres de nos îles morcelées, archipélagées, dispersées, en deçà et au-delà de nos ruptures, brisures, cassures, des clans guerriers, clans parole, clans écriture, clans mémoire, clans histoire, en deçà et au-delà des mélopées funèbres, des espérances de nos béances, manque dans nos corps, de l'âme et de l'esprit en nos sociétés multiples, en deçà et au-delà de tout ça qui fonde et nourrit nos interventions et écritures particulières, nous gardons et emporterons dans nos bagages quelque essence qui est, sur nos chemins de partage, l'apport par chacun de son brin de conscience, de réflexion, d'humanité, pour commencer à dire ensemble, avec nos mots, nos sonorités, nos musiques intérieures, la chose à transmettre, l'esprit de juste mémoire, taillé, ajouter, renouer, rénover, aplanir, étendre et retresser la natte humaine.
Voilà, on a besoin aussi de ce temps de se laisser, je dirais aussi bercer.
Alors j'aime beaucoup vous avez parlé de la poésie de Gabriel Le Gall et vous avez dit qu'il nous a bercé de belles choses. Alors ça ferait vraiment, ça répond vraiment à ce que pense Maram de la poésie. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire bercer pour endormir la conscience.
Non, bien sûr.
Mais il y a quand même cette part... la poésie aussi nous apporte une part de bienveillance. Bienveillance pour l'être humain, même si y a de la dénonciation, il y a de la révolte. Mais il y a cette part qui dit on est des hommes et voilà, on est comme ça. Il y a des choses immondes qui se commettent. Mais... on est des hommes et on a des choses bonnes aussi. Et les poètes, je crois, défendent aussi ça, que cette bonté humaine qui est là, et c'est ça qu'il faut encourager et développer.
Peut-être une manière aussi de redécouvrir, effectivement, l'homme a tellement des facettes les plus belles jusqu'à les plus extrêmes, etc. Mais qu'en même temps, il y a à composer, c'est-à-dire ça, peut-être que c'est peut-être ça aussi que la poésie peut nous engager, c'est que c'est jamais acquis tout ça et qu'il faut apprendre à comment on peut être avec l'autre, et que du coup, c'est un effort de chacun, finalement, pour être avec. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas juste à côté. Je peux être avec à côté, mais comment être avec ensemble? Et que du coup, peut-être que c'est un des moyens, puis on pourrait prendre des pratiques artistiques et d'autres, bien évidemment, qui pourraient essayer de nous aider à essayer de se dire qu'est-ce que ça peut être avec, effectivement, dans un sens fort du terme, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Puis on touche aussi à ce que c'est la beauté, enfin, les belles choses. C'est aussi les valeurs,
bien sûr.
Les repères, les bases, toujours revenir à la base.
Et c'est aussi, Michel Coltis.
Et c'est aussi, pour poursuivre une discussion que nous avons souvent aussi, c'est de jamais apporter une solution, une recette. Quoi.
C'est ça.
Un poème, c'est une évasion vers des possibles. Qu'on puisse imaginer quelque chose qui ne se réalisera peut-être pas, mais qui nous donne un chemin. Et ça, c'est le poème qui peut le faire. Hein.
Je pense que Paul a greffé à une proposition de texte à nous faire entendre, justement.
Juste par rapport à ça, oui.
Bien sûr.
Un poème de Francis Comte qui s'appelle Le Poème. Pardon. Depuis longtemps, dis-tu, nous savons que la poésie n'a pas pour objet de changer le monde. Pourtant, près du canal, une feuille de platane jaune, large comme une main aux doigts écartés, tombe doucement en caressant le visage de cet après-midi d'automne. Et le monde, même s'il ne le sait pas, en est un peu changé.
Je crois que voilà, il est bien en écho à ce que nous commencions de dire. Et c'est important justement de faire qu'elle se cultive, que d'autres s'en emparent, et puis de tous âges justement, et qu'on peut se retrouver justement. On évoquait de tous âges Christine Fusarelli, vous aussi vous aventurez. Peut-être ça peut nous permettre aussi d'évoquer, il y a Stanford, Voix mêlée, mais il ne s'arrête pas qu'à ce moment-là, Voix mêlée. Il a aussi, vous travaillez aussi à essaimer tout au long de l'année, si je peux dire ainsi, mais en tout cas, voilà, c'est pas qu'un temps donné, quoi, en tout cas.
Oui, ben moi j'essaie aussi à travers un atelier d'écriture là, qui réunit des personnes d'âge divers, de travailler chaque mois autour d'un thème, souvent en relation avec la musique aussi, et puis de faire connaître un peu la poésie à Radio B pour une émission qui a lieu tous les
mois. Absolument,
et
c'est important de le rappeler puisque nous sommes dans la maison.
Voilà, donc c'est une fois par mois le jeudi de 14h à 15h et ça s'appelle « Ça manque pas de poésie ».
Voilà, donc ça permettra de faire un prolongement et là aussi de mêler nos voix au travers des émissions. C'est une chose aussi importante de faire les liens et c'est important dans cette radio qui est Radio B, comme on dit, la radio des bonnes ondes. Alors, profitons-en. profitons-en. Alors, est-ce que Michel Coltis, un temps fort aussi comme celui-là, c'est aussi une multiplicité de partenaires. Alors, on ne pourra peut-être pas tous les citer, mais c'est peut-être important de signaler ceux et celles, en tout cas, qui ont facilité aussi cette organisation.
Alors, voilà, on va parler... Moi, je ne suis pas trop dans une idée hiérarchique. C'est comme quand on se pose la question, les temps forts de cet événement, il y en a pas, ils sont tous forts.
Ils sont tous là.
La personne qui va recevoir un petit poème sous une petite forme, ça va être un temps fort extrême.
Oui, si elle le partage
elle.
Dans le bus, comme vous disiez tout à l'heure, ça sera un moment impeccable.
Exactement, voilà. Donc, donc, pour nos partenaires, c'est pareil. Donc, on va dire que... la mairie nous a aidés, nous soutient vraiment, et heureusement qu'elle nous soutient, parce que elle, on ne pourrait rien faire. Donc, on a cette reconnaissance vis-à-vis de cette aide de la mairie. Et puis, ensuite, il y a l'ensemble des structures qui nous reçoivent et qui nous reçoivent vraiment à bras ouverts, qui nous aident à la mise en place de tout ça, que sont les responsables des médiathèques, que ce soit la MJC.
On a évoqué Arphonème, bien évidemment.
Voilà, le théâtre d'Arphonème, bien évidemment. Brou, le monastère de Brou.
Oui, le monastère de Brou.
Voilà. Donc, on a tous ces partenaires qui jouent vraiment un rôle super avec nous. Et puis, moi, je mets sur le même plan les 20 artistes qui acceptent de jouer ce jeu, de nous procurer quand même pas mal d'inédits, comme on le dit, de création pour cet événement. Ils ont des petites interventions, mais bon, justement, ils viennent pour des petites interventions. Donc, on a cet ensemble d'artistes. On a un ensemble de pratiques amateurs, donc là, avec des personnes qui les organisent, que sont Christine et Claudie. Mais on a des groupes de théâtre amateur. Enfin, on est quand même à plus de 30 personnes amateurs de poésie qui vont dire de la poésie. Donc, nous sommes déjà à plus de 50 intervenants. On a une dizaine de personnes qui fabriquent, pour diffuser ces poèmes, qui fabriquent sous forme plastique, on va dire, des petits objets plastiques dans lesquels il y aura un poème, qui vont être distribués toute la journée du samedi. Il y a aussi un groupe qui va baliser le parcours de la déambulation avec des ombres blanches que les gens pourront repérer. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est le passage de voie mêlée. Voilà. Et il y a aussi un groupe de spectateurs, enfin que j'appelle moi le groupe de spectateurs, qui va organiser les spectateurs pour qu'il y ait une meilleure écoute possible de ces petits moments. Donc vous voyez, je pense qu'il faut qu'on remercie un grand nombre de gens sans qui rien ne pourrait se faire. Je crois que aussi il faut saluer tout à fait notre structure d'accueil qui est le Théâtre d'Arphonème, qui nous permet de recevoir les financements, qui nous ouvre toutes les portes pour la préparation de l'événement et tout ça. Donc coup de chapeau quand même aussi au Théâtre d'Arphonème.
Bien sûr, et ça c'est important. Et puis de dire effectivement que voie mêlée, bien voilà, c'est. On insistait tout à l'heure, Paul Greffet insistait, c'est pas une association, c'est un collectif. Et on le sent bien effectivement. En tout cas, j'espère que les auditeurs l'ont senti. C'est-à-dire que voilà, autour de la table, on a des entités, on a des authenticités. Voilà, il y a des points de vue. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire du coup, c'est vraiment un collectif qui est à l'œuvre. Et du coup, vous évoquez qu'il y a pas forcément une hiérarchie aussi justement des partenaires. Ou des choses, mais on sent bien que c'est dans la manière aussi d'envie de fonctionner, justement, cette pluralité, si je peux dire un peu.
On peut dire que, par exemple, d'entre notre groupe pilote, chacun était responsable d'une soirée, et j'ai oublié de souligner la soirée de la MJC le samedi soir,
qui est importante aussi,
qui est coordonnée par Jackie Arpineau, qui est une grosse soirée avec un grand nombre d'interventions, et qui, en amont de cette soirée, il y a quand même un artiste que tout le monde, je pense, connaît, Bernard Gonnet, qui était ailleurs, et qui, pour l'occasion, à partir des textes de Maram Al-Masri, va proposer des objets plastiques, on verra de quelle nature ils sont. Et donc, en amont de la soirée de la poésie à la MJC, il y a aussi une exposition qu'on peut voir dès à présent.
Ah, ça c'est important aussi.
À la MJC. Voilà.
Et de quelle heure à quelle heure on peut s'y rendre même en journée ou...
Oui, en journée. Oui. Il n'y a pas de... Je pense que dans les heures d'ouverture de la MJC, on peut s'y promener et voir l'exposition de Bernard Gonnet. Elle sera animée avec Maram Al-Masri à 20h30, samedi soir, avant le début du spectacle.
Voilà, c'est certainement un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir cette invitée, justement, cette poétesse, et puis bien sûr découvrir tout ce travail qu'a suscité justement ces textes et cette exposition à visiter. Paul Greffet, je vous vois que le livre est ouvert.
Oui.
Allons-y.
Un petit texte encore.
Absolument, avec plaisir, pour terminer.
Tiré d'un ensemble de textes qui s'appelle Le Grand Rivage de Kenneth White, toujours. Donc deux petits poèmes. Car est poème ceci. Tout un monde dense de faits et de sensations qui traverse le thalamus, le ventre du cerveau, et monte sans court-circuit au sommet du cortex, d'où, raffiné par l'abstraction, il redescend. Langage sur la langue. Et aussi, l'effort de saisir et de dire cela, tout le foisonnement univers, que l'homme, quelquefois, si peu rassemble.
Eh bien voilà, je crois qu'avec ces mots-là, nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Une émission, comme vous l'avez compris, complètement consacrée à la poésie, à quelle peut être la place justement de cette poésie aujourd'hui, a-t-elle toujours une certaine importance? Je crois qu'avec tout ce qui s'est dit autour de la table, on y a répondu déjà sur pas mal d'aspects, et je ne peux que vous encourager, chers auditeurs, à vous aussi vous aventurer à vos manières à vous sur les chemins de la poésie. Donc comme vous l'avez entendu aussi, des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte entre le 2 et 5 mars sur Bourg-en-Bresse grâce au collectif Voix Mêlée. Donc merci à vous toutes et à vous tous, donc pour votre témoignage et puis pour cet échange qui, j'espère, en appellera d'autres d'ailleurs. Et puis bon vent, bien évidemment, à cette seconde édition du Printemps des Poètes pour Voix Mêlée. J'étais accompagné aujourd'hui à la technique et à la mise en onde par Simon Deborne. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter la présente émission, la podcaster sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et très belle journée sur Radio B.
Grey Duck et Lastraine en concert le vendredi 4 mars à 21h à la Cava Musique. Gagnez vos places avec Radio B.